Vous écoutez, on lit pour vous.
Démonstration publique d'affection. Une chronique de Julie Vaillancourt parue le 24 août 2025 dans le magazine Fugue. Se tenir la main dans la rue, se câliner, se faire un bisou au restaurant, des caresses délicates lors d'une marche au parc. Êtes-vous du genre à manifester publiquement votre affection pour l'être aimé? La question semble banale. Mais la réponse d'un individu peut varier selon sa culture, son orientation sexuelle, son identité de genre, son aisance sociale, l'endroit où il vit, etc. Bien sûr, pour le bien de cette chronique, nous allons davantage cibler les démonstrations d'affection homosexuelle, mais les hétéros pourront s'y reconnaître. D'ailleurs, combien de fois m'est-il arrivé de voir des démonstrations publiques d'affection trop suggestives de la part d'hétéros, au point de me mettre mal à l'aise? D'entendre quelqu'un scander « Get a room ». Ça nous est tous majoritairement déjà arrivé de voir cela et de ressentir un certain malaise. Bien sûr, ce n'est pas exclusif au monde hétérosexuel. Les LGBTQ+ le font aussi, davantage en 2025 et dans les rues libérées de la fierté à Montréal. Certains et certaines pourraient dire que les démonstrations publiques d'affection sont propres à chaque individu, ce qui n'est pas faux, mais plusieurs sont encore malheureusement ponctuées d'agressions verbales et physiques, selon le degré d'acceptation. Cette chronique prend ses assises à Montréal, et l'histoire n'est pas exempte de crimes homophobes, lesbophobes. En 2017, un homme de 23 ans, Eamon Rekrek, aurait proféré des insultes homophobes à l'endroit de deux victimes, des hommes de 38 et 49 ans, dans le village gay, avant d'en venir au point et d'être arrêté par la police. Ce même individu admettra l'année suivante avoir agressé sexuellement une étudiante à l'UQAM. Les violences quotidiennes à l'endroit des lesbiennes ne sont pas rares également. En 2013, Barbara Legault rapporte à TVA Nouvelles avoir été victime d'agressions verbales avec ses amis dans le village. À cet effet, elle admet qu'il y a des actes de violence contre les lesbiennes tous les jours. C'est juste très rare que ce soit rendu public. Bien sûr, certains crimes furent rendus publics par leur aspect sordide et brutal. Mentionnons le meurtre homophobe de Joe Rose en 1989. Alors qu'il rentrait chez lui accompagné d'un ami, l'activiste homosexuel de 23 ans fut tué par 4 adolescents âgés de 13 et 19 ans dans un bus après que le groupe eut prodigué des coups et insultes homophobes au duo. C'est malheureusement dans l'air du temps, puisqu'au tournant des années 90, 17 hommes gays furent violemment assassinés à Montréal. Ces meurtres secouent les communautés LGBTQ+, et des militants-militantes pressent la police d'agir. Au fil des ans, les agressions homophobes à Montréal sont devenues moins fréquentes, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Au Nigeria, une loi stipule que toute démonstration publique d'affection entre personnes de même sexe est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Pour ma part, je ne suis pas la plus démonstrative en public et la raison derrière cela ne m'est apparue que très récemment. D'abord, mes parents ne sont pas les plus démonstratifs. Nos parents sont les premiers exemples que nous imitons, consciemment ou non. Ils ne sont pas très tactiles, donc moi non plus. Le toucher n'est pas mon sens le plus prédominant et parmi les 5 langages de l'amour, ce n'est pas le plus inné chez moi. Je me suis même dit que cela pourrait remonter à l'enfance, voire ma naissance. Je suis né grandement prématuré en 1980. Je pesais 2 livres 13 onces. Après que le docteur Villain, de son vrai nom, m'ait déclaré morte, erreur médicale, et que l'infirmière m'ait réanimé, héroïne, j'ai passé les 3 premiers mois de ma vie dans un incubateur à l'hôpital Sainte-Justine, loin des bras de ma mère. C'est ainsi que je m'explique comment, aujourd'hui, je n'ai pas le sens inné du toucher et que les démonstrations publiques d'affection ne sont pas mon fort. Cela dit, j'ai eu cette phase à la suite de mon coming out où la démonstration publique d'affection devenait presque un défi au regard sociétal. Dans la jeune vingtaine, lorsque je tenais la main de ma blonde en public, j'avais cette impression d'être anarchiste. Nous étions au début des années 2000, alors que les discussions sur le mariage entre conjoints, conjointes de même sexe battaient leur plein, voire de faire du militantisme. Aujourd'hui, plus de deux décennies plus tard, les démonstrations publiques d'affection chez les LGBTQ+ sont rendues plutôt banales. Néanmoins, il m'arrive d'éprouver une certaine gêne lorsque certains, certaines me regardent ou me dévisagent. Je n'aime pas attirer l'attention ainsi, car j'ai l'impression que c'est tout ce que les gens retiennent, l'orientation sexuelle. Elle est lesbienne au lieu de « elle s'aime ». Comme si ma pensée anarchiste et mon passé militant m'avaient fait faux bond. Suis-je moins brave en vieillissant ou ai-je moins ce besoin de m'afficher, de militer, parce que nous avons finalement atteint un certain sentiment d'acceptation sociale dans l'espace public? Si j'ai commencé à m'afficher au début des années 2000 et que le scénario est différent d'aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à ces lesbiennes qui ont grandi dans les années 40, 50, 60, 70, 80 et même 90. Qu'en était-il de leur démonstration publique d'affection? Si généralement les femmes ont toujours été plus discrètes que les gays par leur nature et leur vécu dans un système patriarcal, je me demande à quel point ces femmes, malgré leurs époques restrictives respectives, ont pu exprimer ou restreindre leur démonstration publique d'affection. À quel point aussi la dynamique butch-femme, à une certaine époque, venait-elle valider une certaine existence du lesbianisme, voire un certain militantisme en public? À toutes celles qui se reconnaissent à travers ces mots, merci de vous être fait voir et, par surcroît, de nous faire exister dans l'espace public. C'était « Démonstration publique d'affection », une chronique de Julie Vaillancourt parue le 24 août 2025 dans le magazine Fugue.
La chanson comme foyer de convergence culturelle, un texte d'Aïcha Van Doon paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. Aïcha Van Doon est professeure de littérature au collégial. Autour de moi, on ne cesse, depuis le 24 juin 2025, de s'étonner du puissant et original discours patriotique prononcé par le comédien Antoine Bertrand. On aime en parler, on réécoute l'enregistrement vidéo pour le plaisir de frissonner à nouveau, et on est tous d'accord. Il s'est passé quelque chose d'unique, voire d'historique, cette année à la fête nationale. Ma réaction spontanée, en entendant le pot-pourri de chansons finement assemblées par le comédien, a été celle de tout bon professeur continuellement à l'affût d'idées nouvelles. Le discours m'est apparu comme un magistral cours accéléré de chansons québécoises, comme un trésor au riche potentiel pédagogique. Un discours comme celui-là, c'est une mine d'or, c'est du véritable bonbon pour les enseignants, me suis-je tout de suite dit. Spécialement pour les enseignants de langue, de littérature, de musique, mais aussi pour tous ceux qui travaillent en francisation. Ah ouais, embarque ma belle. Ensuite, comme vous, je me suis complètement laissé embarquer par la fougue d'Antoine Bertrand. Au fil de sa courte pointe, de Paquetteville à Jonquière, nous avons vu défiler Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Diane Dufresne, Richard Desjardins, Robert Charlebois, Marjou, Ariane Moffat, Samian et combien d'autres. En soi, chacune des chansons proposées dans l'inventif mariage musical était une petite pilule de joie. Si bien qu'en retrouvant les paroles des chansons de mes aïeux, des colocs ou des cow-boys fringants, ce sont d'importants moments de nos vies que nous avons tous retrouvés à notre plus grand plaisir. le retentissant succès du discours d'Antoine Bertrand à la fête nationale s'explique-t-il essentiellement par la nostalgie sur laquelle l'acteur a misé en nous remémorant de grandes voix, Pauline Julien, d'inoubliables mélodies, Partons, la mer est belle, et d'attachants personnages, Joe Montferrand, Bozo les culottes, Bob Épine? C'était là ma première impression. Mais après analyse de ce discours que plusieurs Québécois n'ont pas hésité à qualifier ces derniers jours comme l'un des plus puissants discours patriotiques de la fête nationale, les raisons de son succès m'apparaissent plus profondes. La bonne idée d'Antoine Bertrand. Au-delà de l'habile et émouvant exercice de style qu'il a conçu en collaboration avec Dominique Tardif, comment Antoine Bertrand s'y est-il donc pris pour engendrer une telle adhésion, pour refléter aux Québécois une vision d'eux-mêmes aussi large et englobante, et raviver ainsi le sentiment national? À mon sens, le comédien a eu la bonne idée de faire abstraction de nos différences, comme Québécois, pour nous permettre de partager, le temps de nous rassembler, un espace culturel commun. Remarquez qu'il n'a pas fait mention de couleur de peau ou d'appartenance religieuse dans son allocution et n'a pas cherché à trancher, comme l'a fait dans une certaine mesure Benoît McGuinness dans son discours patriotique de 2024, entre ces deux pôles qu'on oppose et qui nous tiraillent trop souvent, le pôle de l'histoire longue et de la survivance et le pôle plus progressiste associé à l'ouverture à la diversité. Pour inviter tout le monde à naviguer dans le même bateau, l'homme fort de notre cinéma en a plutôt simplement appelé à l'amour et à la paix en ouvrant généreusement ses bras aux nouveaux venus. La chanson n'a rien à envier à la poésie. Elle est un art à part entière qui exprime qui on est et ce qu'on veut comme peuple. Antoine Bertrand en est vraisemblablement convaincu. Le 24 juin 2025, il a osé redonner à notre chanson son rôle capital d'enracinement, de ralliement et de contestation. Sous ses bons soins, la chanson québécoise nous fait à nouveau rêver et devient, symboliquement, un extraordinaire foyer de convergence culturelle. Splendide tour de force. C'était la chanson comme foyer de convergence culturelle, un texte d'Aïcha Van Doon, paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.
Et si on traitait aussi le partenaire? Un texte de Florence Dancause, paru le 10 août 2025 dans La Presse. La vaginose bactérienne est une condition très commune. Une femme sur trois sera affectée au cours de sa vie. Et 66 % d'entre elles auront une récidive dans l'année suivante. Une nouvelle étude australienne propose une solution. Et si on traitait aussi le partenaire? Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une vaginose bactérienne? C'est un changement dans la flore bactérienne vaginale, explique Jacinthe Tremblay, infirmière clinicienne et coordonnatrice clinique au Centre de santé des femmes de Montréal. Une bactérie prend le dessus sur les autres. Il peut y avoir des symptômes, perte vaginale nauséabonde ou non. Par contre, là où les causes spécifiques ne sont pas encore connues, et il ne faut pas confondre l'infection avec une vaginite à levure, qui est plutôt le résultat de la prolifération d'un champignon. Le haut taux de récurrence de la vaginose bactérienne peut créer de la détresse chez les patientes atteintes, souligne le docteur Sean Yaffe, directeur médical de la clinique l'actuelle. C'est frustrant et désespérant. Certaines vivent avec des symptômes pendant des années, expose-t-il. Il peut aussi être décourageant d'entreprendre un second traitement, de 7 jours avec tous les effets secondaires potentiels, pointe Jacinthe Tremblay. Le chaînon manquant. Cela explique pourquoi cette nouvelle étude de chercheurs de l'Université Monash à Melbourne, publiée dans le New England Journal of Medicine, plus tôt en 2025, interpelle autant les professionnels de la santé. C'est super intéressant parce qu'il y avait peu d'études sur le sujet et que cette recherche s'intéresse aussi aux partenaires, explique l'infirmière Jacinthe Tremblay. Une autre étude avait inclus les partenaires masculins, mais avait eu des résultats peu encourageants en les traitant avec seulement des antibiotiques oraux. La récente étude a porté sur 164 couples hétérosexuels dont la femme avait des symptômes d'une vaginose bactérienne. Ceux-ci ont été divisés en deux groupes. D'un côté, les femmes prenaient les antibiotiques recommandés sur une semaine et les partenaires ne recevaient aucun traitement, ce qui correspond à la pratique recommandée mondialement. De l'autre côté, les femmes prenaient le traitement habituel et les partenaires ont reçu un antibiotique oral et une crème antibiotique à appliquer pendant une semaine. Les couples ont été suivis pendant 12 semaines à la suite de leur traitement pour déterminer l'efficacité de cette intervention pour la guérison. Les résultats ont été impressionnants. Dans le groupe de contrôle, où l'homme n'était pas traité, 63 % des femmes ont eu une récurrence, alors que ça a été le cas de seulement 35 % des femmes du traitement double. Les chercheurs ont même arrêté le test devant l'efficacité de l'intervention. L'étude suggère ainsi que le partenaire masculin pourrait infecter sa partenaire, puisque la bactérie responsable de la vaginose bactérienne pourrait se déposer sur le pénis. Que l'homme puisse transmettre la vaginose, c'est une possibilité. Mais on remarque que des femmes développent des vaginoses sans avoir de rapport sexuel. Nuance, le docteur Sean Yaffe. Celui-ci est donc prudent avant d'affirmer que la vaginose pourrait être une ITSS. Ils l'ont traité comme une ITSS, mais pas comme on l'entend pour une chlamydia ou une gonorrhée, illustre de son côté Jacinthe Tremblay. Quelques angles morts. L'étude se révèle intéressante pour les couples stables et monogames, évoque Jacinthe Tremblay, mais elle comporte plusieurs limitations. L'intervention ne s'est pas penchée sur les cas des couples homosexuels ou d'une femme qui aurait de multiples partenaires, fait savoir l'infirmière. La recherche n'a pas détaillé non plus si les femmes avaient des stérilets en cuivre, un facteur de risque, ou si la récurrence était plus basse lorsque l'homme était circoncis, un facteur de protection. Il faut se fier aussi à la confiance des partenaires, ajoute-t-elle. Les facteurs environnementaux, comme le matériel des sous-vêtements, le type de savon ou les crèmes utilisées, ainsi que l'utilisation de condoms, n'ont pas été pris en compte, dénonce pour sa part le docteur Sean Yaffe. Et selon les deux experts, l'étude, qui durait 3 mois, n'était pas assez longue. Après 6 ou 12 mois, on ne sait pas s'il y a eu une récurrence, souligne Jacinthe Tremblay. La santé de la femme au premier plan. Cette recherche fait partie des études plus inclusives qui pallient le manque d'études sur la santé des femmes, souligne le docteur Sean Yaffe. Ça pousse les gens à faire plus de recherches dans le domaine, pense-t-il. Déjà, le Centre de santé sexuelle de Melbourne, affilié à l'Université Monash, a changé sa pratique clinique pour traiter les couples affectés par une vaginose bactérienne. Le docteur Sean Yaffe se dit ouvert à changer sa pratique, mais il manque encore des données pour affirmer que c'est le bon traitement, dit-il. C'est un bon début, résume toutefois Jacinthe Tremblay. C'était. Et si on traitait aussi le partenaire? Un texte de Florence Dancause, paru le 10 août 2025 dans La Presse.
L'envol des drones agricoles. Un texte de Daphné Cameron, paru le 16 août 2025 dans La Presse. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est un drone. Un drone agricole. Ce n'est plus un vague scénario futuriste. Les agriculteurs québécois sont de plus en plus nombreux à avoir recours à ces engins volants pour semer du haut des airs et pour répandre dans leurs champs des insectes qui vont s'attaquer aux bestioles nuisibles pour les récoltes. Ça porte ses fruits. À Saint-Hyacinthe, William Overbeek déverse 110 livres de semences de ryegrass dans un grand réservoir attaché à un drone. Le pilote agrippe sa télécommande et l'engin d'une largeur de 10 pieds s'envole sous le regard impressionné des 4 enfants de la ferme. Alors qu'il survole un champ de maïs à 36 km/h, le drone laisse tomber les semences de la plante fourragère entre les rangs. C'est impressionnant, lance l'agricultrice Martine Rainville, le regard tourné vers le ciel. C'est merveilleux. Ça fait avancer la technologie pour le monde agricole. Au cours des prochaines semaines, le ryegrass poussera à l'ombre des plants de maïs. Cette technique agricole, qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec, se nomme la culture intercalaire. Elle peut se réaliser à l'aide d'un tracteur, mais le drone permet d'éviter la compaction du sol due au poids de la machinerie et de réaliser cette opération plus tard en saison. Le drone fait maintenant partie du coffre à outils des producteurs agricoles. Ils sont de plus en plus nombreux à semer du haut des airs. On les utilise aussi pour une pléthore d'autres fonctions comme l'application de biostimulants, le dépistage des mauvaises herbes, la cartographie d'un champ ou l'inventaire de légumes par caméra. Dès que j'ai commencé à l'utiliser et que j'ai vu le potentiel, j'y ai cru à 100%, explique William Overbeek. Mais dans les premières expositions agricoles, quand on présentait le drone, les gens riaient quasiment de nous. Ils nous disaient « c'est un jouet ». Vous ne pourrez pas faire de choses très importantes. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ce sont des centaines de producteurs qui ont ce drone-là au Québec. L'agronome de 28 ans, qui a grandi dans une grande ferme de la région et qui réalise aujourd'hui un doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, visite entre 30 et 50 clients chaque saison. Le drone permet aussi de semer lorsque les tracteurs ne peuvent pas passer après des épisodes de forte pluie. Éviter la compaction, réduire les pesticides. Le drone, un modèle Agra T40 de l'entreprise DJI, réussira à semer le champ de 11,7 hectares, HA, en 1 h 30 environ. Tu regardes la charte de DGI et c'est vraiment exponentiel. En 2020, il y avait peut-être 10 000 drones comme ça vendus dans le monde. En 2025, on est rendu à 400 000, souligne William Overbeek au sujet de ce modèle. En Chine, le drone remplace quasiment tout type de machinerie, ajoute-t-il. À son avis, le drone continuera à gagner en popularité, notamment en raison de son prix. C'est 50 000 $ environ pour un kit complet. Pour un producteur qui a une bonne superficie et qui est habitué à acheter des tracteurs à 200 000 $ ou à 500 000 $, un drone, c'est vraiment une petite dépense. Le comptable ne regardera même pas c'est quoi. Remplacer le tracteur. Développeur d'affaires pour l'entreprise Drone des Champs, Gil Wiseman parle du drone comme d'une nouvelle corde à l'arc des agriculteurs. Les agriculteurs ou les entreprises ont maintenant identifié les cas d'usage où le drone est véritablement intéressant, nous dit-il. Au début, on imaginait que le drone allait remplacer la machine, mais en fait, ça, c'est une erreur, parce que le drone a des inconvénients, notamment en raison de sa capacité. Ça n'a pas de sens pour un agriculteur de remplacer un très gros tracteur par un drone parce qu'il va perdre du temps et de l'argent. Par contre, après des années, on a compris que semer l'intercalaire ou les cultures de couverture, c'était plus facile en fait avec le drone. Les cultures de couverture comprennent la technique de l'intercalaire, mais aussi toute démarche qui vise à couvrir le sol durant l'automne et l'hiver après la récolte. Je crois beaucoup aux cultures de couverture, au fait qu'il faut couvrir le sol pour longtemps, explique William Overbeek. C'est à l'automne 2020 qu'il a eu une idée. Semer du seigle à travers les rangs de maïs à l'aide d'un drone sur la ferme familiale. C'était le début d'une nouvelle aventure. Il sème aujourd'hui des prairies, des cultures de couverture, du blé d'automne et, bien sûr, des cultures intercalaires. Les cultures intercalaires ajoutent de la matière organique dans le sol et lui donnent une meilleure structure. En améliorant la portance du sol, il est plus facile d'entrer au champ avec de la machinerie lourde sans l'endommager. Ça fait 3 ans que l'on fait de l'intercalaire avec le drone et ça porte ses fruits, estime le conjoint de Martine Rainville, Jean-François Ménard. Le regrass, sa job, c'est de mettre des racines dans la terre. Lors de la décomposition des racines, ça va créer de l'air et c'est là que les vers de terre vont avoir plus de place pour passer. De fil en aiguille, d'année en année, on se ramasse avec une structure de sol qui change. Cette technique est officiellement reconnue par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec comme une pratique agro-environnementale car elle réduit le recours aux herbicides. Les mauvaises herbes ont moins de chances de s'installer lorsque le sol est constamment couvert. La terre, elle ne nous appartient pas. Elle appartient aux générations futures, souligne Martine Rainville, qui a repris la ferme familiale fondée par son grand-père. C'était L'envol des drones agricoles, un texte de Daphné Cameron paru le 16 août 2025 dans La Presse.